Bon réveil à tous, le journal de Clara Lecoq Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 8 personnes en situation de handicap sur 10 en France estiment que les engagements de la campagne d'Emmanuel Macron à leur sujet n'ont pas été tenus. Leur situation, disent-elles, se dégrade. Une association ce matin alerte. Chiffres à l'appui, vous l'entendrez.
La montagne d'or en Guyane n'est en l'état pas compatible avec des ambitions écologiques. Emmanuel Macron l'a dit hier soir. Réaction dans ce journal d'un opposant au projet sur place.
Nous irons aussi en Birmanie où les deux journalistes de l'agence Reuters ont été libérés cette nuit. Ils ont passé près de 500 jours en prison après avoir enquêté sur le massacre de musulmans dans le pays.
Et puis le chef du gouvernement libyen entame une tournée en Europe ce mardi, en Italie, en Allemagne et en France. Il attend le soutien des gouvernements face au maréchal Haftar.
Dans cette édition encore, reportage en Turquie. L'élection municipale à Istanbul a été annulée hier. Le président Erdogan y avait été battu pour la première fois en 25 ans. L'opposition crie à la dictature. Dans un quart d'heure, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique, consacré ce matin à la gauche qui, dit-il, n'est pas prête de se rassembler. Une grande caravane à travers la France pour porter le sujet du handicap. L'association APF France Handicap veut sensibiliser et recueillir les doléances, car 2 ans jour pour jour après l'élection d'Emmanuel Macron ce mardi, rien ou presque n'a changé. Souvenez-vous, c'était en mai 2017, lors d'un débat télévisé de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen.
Moi, je veux, pour toutes celles et ceux qui vivent en situation de handicap, avoir des réponses pragmatiques. La première, c'est que je revaloriserai l'allocation adulte handicapé qui est aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat.
Et 2 ans après, où en est cette priorité? L'allocation adulte handicapé a bien été revalorisée. Elle doit passer d'ici la fin de l'année de 860 à 900 euros. Mais elle est toujours en dessous du seuil de pauvreté qui est de 1026 euros en France. L'APF France Handicap dénonce une politique qui n'est pas à la hauteur. Elle en veut pour preuve ce dernier baromètre France Handicap de la confiance réalisé par l'IFOP. Il est présenté ce mardi matin et les chiffres, Jade Péchira, sont préoccupants.
Ils sont près de 9 sur 10 des personnes handicapées et leurs familles à se dire mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Pour plus de 8 sur 10, les engagements pris pendant la campagne présidentielle n'ont pas été tenus. 43% estiment même que la situation des handicapés s'est dégradée. L'un des plus gros points noirs, l'accessibilité aux lieux publics et aux transports, mais aussi l'accessibilité au logement et la lutte contre la pauvreté des personnes handicapées. Sur ce point, 92% des personnes interrogées disent ne pas avoir confiance en Emmanuel Macron et son gouvernement pour améliorer les choses. Des chiffres en nette augmentation par rapport au précédent baromètre de l'IFOP qui datait d'il y a un an, soit avant la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Revalorisation qui n'a eu aucun impact sur leur quotidien pour la majorité d'entre eux, disent-ils. Ils réclament en priorité une prise en charge financière intégrale des aides humaines et matérielles qui existent et des aides financières supplémentaires pour sortir de la pauvreté. Plus de 8 personnes handicapées sur 10 déclarent s'en sortir difficilement avec ces ressources.
Et pour expliquer ces chiffres, le directeur général adjoint de l'APF France Handicap, Patrice Tripoteau, sera l'invité du journal de midi et demi sur France Culture tout à l'heure. Voilà donc une promesse de campagne interrogée ce matin. Elles vont se multiplier ces prochaines semaines. Promesse européenne à 19 jours des élections. La campagne, ça y est, débute vraiment. Hier soir à Caen, Édouard Philippe, le Premier ministre, a soutenu la candidate de la majorité, Nathalie Loiseau, lui conseillant de rester calme, de boire frais face au feu électoral. Le Rassemblement National, lui, était dans les Ardennes à Roquigny avec Marine Le Pen et Jordan Bardella quand le parti Les Républicains, Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy avaient choisi Marseille. La tête de liste des Républicains y a évoqué un déni de réalité au sujet de l'immigration en France. Après la colère des parlementaires, la fronde citoyenne s'organise contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Une privatisation prévue par la loi Pacte, votée le 11 avril dernier, contre l'avis unanime de l'opposition. Alors pour tenter de la contrer encore, 36 000 citoyens ont signé un mémoire argumenté. 10 citoyens de tous horizons, syndicalistes, gilets jaunes, simples riverains installés à proximité d'un aéroport parisien. Porté par un avocat, le texte a été remis hier au Conseil constitutionnel. Manon Clavry y était pour France Culture.
Ils se sont donné rendez-vous dans une brasserie à quelques pas du Conseil constitutionnel pour aller ensemble remettre leurs 52 pages de mémoire aux sages. Maître Christophe Leguevac l'a rédigé. À ses côtés, des sénateurs, représentants d'associations et des syndicalistes, dont Laurent Garcine, secrétaire général de l'UNSA pour l'aéroport de Paris.
Depuis l'ouverture du capital en 2006, on a perdu 1700 emplois. Aujourd'hui, l'aéroport de Paris ne fait plus d'accueil au public. C'est donné à la sous-traitance, à des emplois de précarité. Demain, le risque d'une privatisation, c'est d'ouvrir le marché à la sous-traitance et pour beaucoup d'emplois précaires.
En première ligne, les riverains. Françoise Brochot est présidente de l'association de défense contre les nuisances aériennes aux aéroports de Roissy et du Bourget. Elle explique ses inquiétudes.
Nous craignons en fait d'obtenir moins de protection par rapport au bruit et à la pollution des avions. C'est ce qui s'est passé à Toulouse. La conséquence, on l'a vu, c'est une augmentation du trafic extrêmement notable. Au niveau du respect des contraintes environnementales, de nombreuses transgressions.
Pour les quelques gilets jaunes présents, cette privatisation est symptomatique de la destruction des services publics par le gouvernement. Farouk Largot, gilet jaune de Sarcelles.
Si vous ne voulez pas que les femmes accouchent à une heure ou à une heure et demie d'un hôpital, c'est défendre le service public. Comment ils sont financés nos services publics? C'est grâce à ces rentrées d'argent. La France va quand même accueillir les JO. On est sûr d'avoir une rentrée des royalties des aéroports. Donc c'est de l'argent qui va rentrer dans les services publics.
Le Conseil constitutionnel n'a aucune obligation de répondre à cet appel. Mais maître Christophe Leguevac espère que le poids des 36 000 signatures fera pencher la balance en faveur de l'opposition.
Autre projet contesté et qui pourrait là aussi lier l'État public à des entreprises privées. La Montagne d'Or, du nom de cette mine d'or géante en Guyane qui devait être exploitée d'ici 3 ans, projet controversé depuis des années. Eh bien, hier soir, le président français Emmanuel Macron l'a remise en cause. « Ce que je sais du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique », a-t-il déclaré, alors qu'il recevait des scientifiques venant de publier un rapport alarmant sur la biodiversité, justement. Est-ce là un premier pas vers l'abandon de cette mine d'or à ciel ouvert en Guyane ? Le responsable du bureau WWF France là-bas, Laurent Kell, y voit lui une logique.
Le projet Montagne d'Or, c'est un impact sur l'habitat de plus de 2000 espèces, dont 127 espèces protégées, qui se dérouleraient à proximité immédiate de réserves biologiques intégrales, parmi les plus étendues de France. Donc il y a une incompatibilité totale entre la mise en place de ce projet minier industriel et une ambition de préservation de la biodiversité. Donc on prend note avec satisfaction de cette nouvelle prise de distance entre le gouvernement et le projet minier Montagne d'Or. Et on attend bien sûr maintenant une décision d'abandon définitive de ce projet.
La Montagne d'Or en Guyane, est-ce un bon ou un mauvais filon? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir ou à redécouvrir le magazine de la rédaction réalisé par Véronique Reberotte. C'est sur franceculture.fr. Notons par ailleurs quelques-unes des autres mesures annoncées par Emmanuel Macron hier concernant la biodiversité et la préservation de l'environnement. Il souhaite notamment recycler 100% du plastique d'ici 2025, accroître les aires de protection de la biodiversité et puis réorienter les financements européens vers des productions plus durables dans le cadre notamment de la politique agricole commune.
Eh bien, il est 8h08 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les deux journalistes de l'agence de presse britannique Reuters, retenus en Birmanie, ont été libérés cette nuit.
Oui, ils auront passé 500 jours dans une prison birmane. Les voilà donc sortis. Ces deux journalistes avaient été condamnés à 7 ans de prison pour violation du secret d'État. Ils enquêtaient en décembre 2017 sur le massacre de Rohingyas, de musulmans birmans dans l'ouest du pays. Ils avaient été arrêtés à cette époque et bénéficient donc aujourd'hui d'une amnistie présidentielle à l'occasion du nouvel an birman. Les précisions de Sarah Balakoulou, correspondante de RFI en Birmanie pour France Culture.
Ce sont aux côtés de 6500 autres prisonniers que les deux journalistes de l'agence Reuters ont été libérés ce mardi. Une amnistie générale pour des motifs humanitaires, pour la réconciliation nationale et pour la paix dans le pays, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement. La libération de Wallon et Tchosso arrive après des mois de pression de la communauté internationale, une pression à laquelle jusqu'à présent la Birmanie n'avait jamais semblé sensible. Un représentant du parti au pouvoir, la Ligue nationale pour la démocratie, expliquait encore la semaine dernière que ces journalistes étaient en prison pour protéger la souveraineté nationale. L'annonce de la grâce présidentielle intervient à la fin d'une longue bataille judiciaire et après un procès qualifié de farce par de nombreux observateurs où l'absence de justice a été critiquée. Et si les reporters de l'agence Reuters ont été libérés, d'autres restent menacés. Sous le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, 31 journalistes ont été poursuivis en justice. Encore le mois dernier, les militaires ont porté plainte contre un journal local pour sa couverture du conflit dans l'état de l'Arakan où l'armée affronte un groupe rebelle ethnique.
C'était Sarah Bakaloglou en Birmanie pour France Culture. correspondante de RFI. J'ajoute qu'à sa sortie de prison, l'un des deux reporters a immédiatement dit vouloir continuer à exercer sa profession de journaliste. Leur enquête sur les Rohingyas, complétée par leurs collègues, leur a valu un prix Pulitzer le mois dernier. Alors que le maréchal Haftar promet de poursuivre la lutte armée pour s'emparer de Tripoli en Libye, le chef du gouvernement libyen s'apprête lui à faire le tour des grandes capitales européennes. Rome, Berlin, Paris, Fayez al-Sharraj attend de ses partenaires qu'ils réaffirment leur soutien au système politique mis en place après la chute du colonel Kadhafi. Et il a un peu de temps pour les convaincre, Omar Waman.
L'offensive des forces du maréchal Haftar stoppée aux portes de Tripoli, Fayez al-Sarraj peut désormais quitter la Libye quelques jours seulement pour faire passer son message alarmiste. Notamment, si l'on en croit le chef du gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies, que cette guerre, si elle se poursuivait, pourrait pousser près de 800 000 migrants vers les côtes européennes. Fayez al-Sarraj veut surtout mettre en garde contre un embrasement généralisé en Libye qui pourrait déstabiliser toute la région. Après son étape à Rome, il s'envolera pour Berlin où il sera reçu par Angela Merkel, mais le moment de vérité aura lieu mercredi. Demain, à Paris, le Premier ministre libyen soupçonne Emmanuel Macron de jouer double jeu, officiellement de le soutenir et en sous-main de prendre parti pour l'homme fort de l'Est libyen au nom de la lutte contre le terrorisme. La France, qui a une vision régionale de cette crise, considère, et elle n'est pas la seule, que le maréchal Haftar fait partie de la solution, une position vivement critiquée en Libye où la France est accusée de vouloir le retour de la dictature.
La trêve tient au Proche-Orient après un week-end de violence entre Israël et la bande de Gaza. Hier, l'armée israélienne a annoncé la levée de toutes les restrictions imposées aux populations civiles israéliennes voisines de la bande de Gaza. Les habitants d'Istanbul voteront de nouveau, a priori mi-juin, pour des municipales. Ainsi, en a décidé le Haut Conseil électoral qui annule la précédente élection. L'opposition avait vaincu le parti du président Erdogan pour la première fois depuis 25 ans. Son chef de file, İmamoğlu, qui occupe est officiellement le poste de maire d'Istanbul depuis le 17 avril dernier. Son chef de file donc a réuni hier les partisans de l'opposition. Il s'est montré plus combatif que jamais, un Andlauer.
Depuis que le Haut Conseil électoral a invalidé sa victoire, Ekrem İmamoğlu n'est plus le maire d'Istanbul. Mais alors qu'au sein de l'opposition, certains plaidaient pour un boycott en cas de nouvelle élection, le vainqueur du 31 mars est apparu déterminé devant des milliers de partisans qui réclamaient la démission des instances électorales.
En multipliant les contestations, ils se sont mis à faire pression et à menacer le Haut Conseil électoral. Et ce dernier a courbé l'échine. Je condamne le Haut Conseil électoral. Je le condamne.
Officiellement, le Haut Conseil électoral a annulé le scrutin au motif que certains membres des bureaux de vote n'étaient pas des fonctionnaires, comme le veut la loi. Réponse de l'opposant turc.
Mais avec les mêmes bureaux de vote en juin 2018, vous avez choisi un président. Avec les mêmes bureaux, un an plus tôt, vous avez changé la constitution par référendum. Dans ce cas, la constitution est entachée et l'élection présidentielle aussi.
Ekrem İmamoğlu n'a pas appelé ses partisans à manifester. Il les a appelés au sang-froid.
Nous n'abandonnerons jamais, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce processus. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets, certains sont peut-être désespérés. Essuyez vos larmes, nous sommes ici et nous travaillerons tous ensemble.
Ekrem İmamoğlu le sait, la victoire ne sera pas facile. Mais s'il y parvient une fois de plus, ce sera un coup sévère dont le président turc Recep Tayyip Erdogan aura beaucoup de mal à se remettre.
L'élection municipale à Istanbul pourrait être reprogrammée au 23 juin prochain. Il n'est pas question d'élection en revanche au Soudan, mais de négociations toujours entre l'armée et des représentants de civils. L'idée est de créer un gouvernement de coalition. Parmi les prétendants pour y participer, on trouve le SPA, l'Association des professionnels soudanais. Fer de lance de la contestation contre le président déchu Omar el-Béchir, ce mouvement a pourtant été la cible de l'ancien régime. Les services de sécurité ont tenté de l'affaiblir via les réseaux sociaux, sans succès. Ce matin, nous vous proposons ce reportage rare, ce témoignage d'un jeune homme témoin des tentatives de décrédibilisation de l'opposition. Olivia Macadré l'a rencontré à Khartoum.
Hassan nous a fait promettre de ne pas révéler son identité. Ce jeune Soudanais possède des informations sensibles. Il révèle comment il a été sollicité par les services de renseignement soudanais, l'UNIS, pour pirater les réseaux sociaux et les comptes personnels des organisateurs des manifestations dès le mois de décembre.
Quand les manifestations ont commencé, ils m'ont demandé de faire le sale boulot pour eux, à savoir pirater les pages des mouvements contestataires, changer les admins, que je les remplace pour que eux, ils puissent devenir les administrateurs de ces pages. Ils puissent apaiser le ton des postes vis-à-vis du gouvernement, avec l'objectif de faire perdre la confiance des gens dans ces pages. L'une d'entre elles, c'était le SPA, c'était leur cible.
Hassan partage les revendications du peuple soudanais qui s'élève contre le régime d'Omar el-Bachir. Il trouve alors des parades pour ne pas effectuer les piratages réclamés par le Nice.
La seule chose que je pouvais faire pour soutenir mon pays et mon peuple, c'était de leur faire gagner du temps en disant au NISS « Ok, je vais le faire, mais j'ai besoin de temps ». J'ai commencé jusqu'au moment où al-Bachir est tombé. Évidemment, je ne pouvais pas dire non, ma famille est ici. En même temps, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas être celui qui plante un couteau dans le dos du Soudan.
Responsable de la répression violente contre les manifestants, le Nice est aussi aux commandes de nombreuses arrestations d'opposants. Si son directeur, Salah Ghosh, vient d'être limogé, ce bras répressif de l'ancien régime est toujours opérationnel.
C'était Olivia Macadré à Khartoum pour France Culture. De la pluie et des nuages gris arrivent par l'ouest ce mardi sur l'Hexagone. Averses de plus en plus soutenues au fil de la journée. Avant cela, les éclaircies devraient être belles. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 11 à Lille, 12 à Rennes et Lyon, 13 degrés à Paris et Bordeaux, 16 à Marseille et à Ajaccio.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.